Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 283 du podcast Jean Actuel en Matéi. Très heureux de vous retrouver, c'est l'heure de la grande preview du Super Bowl et à mes côtés, l'homme qui part à Atlanta dans quelques heures, c'est Grégory Richard, bonjour.
Pas de problème, salut Alain, bonjour à tous.
Trop d'excitation.
Un peu trop, ouais.
À la technique, et je ne l'oublie pas en vidéo cette semaine, c'est Camille Sarabène, bonjour.
Salut.
Le podcast Jean Actuel du jeudi qui vous est présenté, alors du jeudi mais qui est diffusé un lundi, le podcast preview en tout cas, voilà, c'est le podcast preview qui est... sponsorisé par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. Ils sont avec nous encore cette année et c'est encore le moment des meilleures cotes. On vous en parlera évidemment en fin d'émission. Le sujet du jour, ils ne sont plus que deux évidemment, les Patriots, les Rams, un Super Bowl à la clé. Qui va gagner ? C'est le moment de la grande preview et on va faire très simple. D'abord, quand les Rams ont le ballon, ensuite quand les Patriots ont le ballon. Derrière, on vous donnera quelques facteurs X et quelques clés pour les pronostics avant évidemment les meilleures cotes de la semaine. C'est parti pour la grande preview. La preview du Super Bowl qui commence donc, Grégory, avec les Rams en attaque. Les Rams étaient tête de série numéro 2 de leur conférence. Les Patriots étaient tête de série numéro 2 de leur conférence, je le rappelle. Avant toute chose, donc les Rams, on commence par eux. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent officiellement, on vous le notifie. C'est pour ça que c'est eux qui ont choisi les maillots en premier. Cette année, c'est la NFC qui reçoit, l'année prochaine, l'AFC et ainsi de suite. C'est un roulement. En attaque, j'allais dire encore Saint-Louis, on part de loin. En attaque, donc cette équipe de Los Angeles, c'est deuxième sur les points marqués dans la ligue, 32,9, deuxième sur les yards gagnés, cinquième à la passe, troisième pardon, à la course. Les Patriots en défense en face, septième sur les points encaissés, 21e sur les yards encaissés, 22e contre la passe, 11e contre le sol. Est-ce que Grégory, c'est l'opposition clé ou au moins la plus passionnante? Et je te donne le storytelling. L'attaque, c'est la force de Sean McVay, la défense en théorie, c'est celle de Bill Belichick. Donc c'est un peu le sommet du duel des coachs.
Ça peut être en effet un facteur extrêmement déterminant, surtout que on a eu, comment dire ça, on s'est rendu compte aussi, on était assez craintif, mine de rien, à la fin de la saison régulière, notamment sur le niveau de la défense des Patriots, avec les fameux no-names qu'on rappelait sans arrêt, etc. Et notamment cette défense contre le jeu au sol qui faisait un petit peu peur. Là, pour le coup, ils vont avoir un vrai test, notamment parce qu'ils vont croiser Todd Gurley, un Todd Gurley qui va être extrêmement revanchard.
Oui,
de par sa très petite performance enregistrée sur le terrain des Saints. On n'oublie pas, bien entendu, CJ Anderson qui est capable d'apporter un petit peu de variété, un petit peu de physique également pour mettre à mal le premier rideau des Patriots. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que il y a cette défense des Patriots qui est capable de sortir des schémas assez créatifs pour réussir à mettre constamment la pression.
C'est ce que j'allais dire. Hein, c'est une des intrigues, c'est que tout le monde veut parler de passation de pouvoir. Hein, si l'attaque de McVay écrabouille la défense de Belichick ou inversement, les Chiefs arrivent avec une attaque terrifiante. Et on l'a vu, ils ont été annihilés en première mi-temps. En tout cas, en première mi-temps, ça leur a donné suffisamment d'avance aux Patriots pour tenir le coup, ou en tout cas s'en sortir. Mais ils ont été complètement stoppés. Là, on a une attaque des Rams qui n'est pas dans la même configuration. Ils se sont beaucoup concentrés pour stopper Tyreek Hill, notamment en le doublant. Il y avait Travis Kelce, il y avait des individualités très, très fortes. Là, on a une attaque des Rams qui a l'air quand même un peu plus portée vers le sol, puisque évidemment, les Chiefs l'étaient moins sans Kareem Hunt de toute façon. Et dans les airs, une menace qui semble un peu plus diffuse. Donc, comment tu gères, toi, si t'es les Patriots, différemment ?
C'est un peu ce que j'allais dire. Oui, en effet, la menace vient d'un petit peu partout, parce que certes, Goff est apparaît quand même un peu plus fragile que Mahomes, on dirait, d'un point de vue performance, surtout depuis la bye week et depuis la victoire des Rams contre les Chiefs. Maintenant, on a vu que pendant les playoffs, Sean McVay en tout cas, il n'hésitait pas s'appuyer sur le jeu au sol, même quand ça fonctionnait pas trop bien. Et du coup, ça retire malgré tout de la pression à Jared Goff. Et c'est vrai que du côté des Chiefs, on avait aussi peut-être un petit peu cette caractéristique à vouloir beaucoup chercher le big play, beaucoup chercher Tyreek Hill. Et c'est vrai que c'est pas forcément des fenêtres qui se trouvaient hyper facilement. Là, du côté des Patriots aussi, ce qui est assez fort, c'est qu'ils ont un espèce de système un peu hybride 42-33 au niveau des deux premiers rideaux. Et du coup, bah, forcément, ça fait un backfield qui est extrêmement fourni. Donc, il y a beaucoup de menaces aériennes du côté des Rams, tu le soulignais, avec, il y a Kelsey du côté de Kansas City, mais là, il y a et Everett et Higbee au centre du terrain. Et puis, sur les extérieurs, même sans Cooper Kupp, il y a un Brandon Cooks qui va retrouver en plus les Patriots après avoir retrouvé les Saints au passage. On a un Josh Reynolds qui a été précieux sur certaines phases de jeu également, et il va être nécessaire notamment pour mettre à contribution les Gilmore, les Jesse Jackson, etc. Donc c'est vrai que c'est un duel assez excitant, et si le jeu au sol est bien contenu comme ça a pu être le cas sur le terrain de New Orleans, il va falloir également un grand Jared Goff, en tout cas de ce qu'on en a vu en fin de match, dans les moments clés, pour réussir à prendre à défaut cette défense des Patriots.
Brandon Cook, c'est Kill Bill en fait, il a sa liste,
c'est exactement ça, ça y ressemble en tout cas.
Et en plus, bah, Kill Bill, là c'est quand même le terme adapté pour cette finale. Un petit point toujours tactique. Tu le disais, ils ont des formations un peu hybrides, les Patriots. Les Rams, eux, attaquent 96% du temps en formation à trois receveurs. Mm-hmm. Et ils courent très bien de cette formation-là. Alors que c'est vrai que d'autres équipes ont parfois besoin de fournir un peu plus la ligne à ce niveau-là. Donc, avec des receveurs, par contre, très proches de la ligne, c'est aussi une des caractéristiques des Rams. Est-ce qu'on pourrait voir, alors je suis désolé pour le journaliste US qui a écrit ça, je crois que c'était sur USA Today, est-ce qu'on pourrait voir une défense des Patriots ajustée avec un seul safety et trois cornerbacks? C'était une option qui proposait, parce que les Patriots auraient déjà utilisé ce système par le passé, par petites touches. Là, on est dans une opposition aussi tactique où il faut amener un peu de la nouveauté et de l'imprévu pour déstabiliser. Est-ce que ça pourrait être une option?
Ça peut être une option, en effet. Après, je sais pas si c'est une erreur de dire ça, mais en tout cas, j'ai pas la sensation que malgré les ajustements qui ont été faits pendant l'intersaison du côté des Pats, le poste de cornerback soit leur poste prioritaire.
C'est pas le point fort.
On va dire que, en effet, Bill Belichick et Brian Flores, son coordinateur défensif officieux, on va dire, justement travaille beaucoup sur le fait de réussir à mettre la pression sur les premiers rideaux, peut-être également, je pense, pour pas trop exposer le backfield défensif. Donc ça peut en effet être une stratégie de blinder au niveau des cornerbacks, hein, peut-être pas faire une Chargers non plus, mais en tout cas de réussir à être constamment, d'avoir un match-up on va dire suffisamment intéressant ou pas trop déficitaire par rapport au receveur des Rams. Après, je pense quand même qu'il faudra pas mettre trop de pression sur ce backfield, et que faudra surtout, je pense, compter sur des safeties qui sont capables de monter très rapidement. Et c'est assez souvent le cas selon moi. On sait qu'il y a McCourty, on sait qu'il y a Chung. Il y a Duran Harmon également qui est très très précieux dans ce rôle-là. Donc honnêtement, je pense que ce serait peut-être plus intéressant pour eux de blinder plein centre. Après, encore une fois, tu l'as dit, c'est le Super Bowl, c'est Bill Belichick. Le Super Bowl, ça se gagne aussi sur des paris, sur des choses tentées, et on sait qu'il est capable de le faire.
Et après, tu parlais du backfield, il va falloir tenir, être parfois un peu dans la durée, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de play-action dans le jeu des Rams. C'est l'équipe qui en lance le plus. Hein. Plus d'un tiers des passes de Jared Goff étaient lancées sur des play-action cette année. Il a lancé le plus grand nombre de passes sur play-action cette année. Il était à 10 sur 12 contre les Saints sur ce type de configuration-là. Donc là aussi, le backfield va être sollicité. Ouais. Il va falloir tenir. Hein.
Après, je suis pas sûr. Alors, tu vois, autant j'étais un peu mesuré sur le fait que le backfield défensif des Pats, je dirais pas le maillon faible, mais en tout cas risquait d'être un petit peu exposé contre cette force de frappe des Rams. Après, je le pense quand même un petit peu moins sujet à être exposé que le backfield défensif des Saints, qu'on a vu en souffrance tout au long de la saison. Là, c'est sûr que je pense qu'il y aura des corners qui sont capables de coller les receveurs.
C'est d'ailleurs l'équipe qui joue le plus en homme à homme. Hein. Les Patriots, statistiquement, ils sont à quasiment 60% du temps en homme à homme. Et donc, l'homme à homme sur Woods et Cooks, ça peut quand même aussi être risqué, hein, parce que ça peut aller vite.
Ça peut aller vite. Moi, c'est ce que je te disais. Gilmore fait une bonne saison. Donc, je pense que son match-up avec Cooks, même si on va, j'ai quand même la sensation que Gilmore joue peut-être plus, un peu plus sur le physique. Cooks, c'est peut-être plus dans le côté esquive ou en tout cas capacité de tracer et de vitesse. C'est pas forcément des caractéristiques qui peuvent convenir à Gilmore, mais en tout cas, le match-up peut être intéressant à suivre. Après, de l'autre côté, on a vu notamment en fin de match contre les Chiefs la semaine dernière que Jesse Jackson restait un rookie, qu'il était sujet à faire des interférences et que en effet ça pouvait
c'est ce que tu
faire
disais,
pencher la balance.
Jason McCourty qui est un vétéran et Jesse Jackson qui est très jeune, c'est pas forcément l'assurance touriste totale de l'autre côté du terrain pour les Patriots. Brandin Cooks, pour la stat, il a été ciblé 7 fois contre les Saints, ça a fait 7 réceptions et 107 yards, donc il est quand même sur une très bonne dynamique. Le jeu au sol, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a Todd Gurley, il y a CJ Anderson. On va quand même, c'est impossible de croire que Todd Gurley va faire un non-match comme il a fait en finale de conférence, a priori.
Je serais étonné aussi. En plus, lui qui revient sur ses terres géorgiennes, les terres de ses exploits.
Je serais
étonné qu'il fasse deux prestations en demi-teinte. Alors, on ne sait pas trop s'il traîne toujours sa blessure de fin de saison régulière, si ça joue ou pas.
C'est ça qui est très étonnant quand même. C'est que Sean McVay a dit c'était le plan de jeu, etc. Alors oui, il y a eu deux drops qui étaient vilains en début de match. Mais est-ce qu'il suffit de dire, du coup, ils ont fermé les extérieurs, du coup, je vais jouer que...
Oui. Et puis je dis ça, mais j'ai pas dans l'idée que contre Dallas, il a été mauvais, même si c'est CJ Anderson, il me semble, qui avait été le plus en lumière. Mais ça va être quand même un domaine à surveiller, son impact au sol, mais aussi et surtout ses mains
dans les airs.
Et ça a vraiment été aussi le gros défaut face aux Saints. Je pense que s'il faisait que 13 yards au sol, mais qu'il avait catché les quelques ballons chauds qu'il avait à capter et qu'il a pas réussi à saisir, je pense que on aurait peut-être dit autre chose. Donc voilà, c'est une double menace. Si déjà il est très performant dans un secteur, ce sera très bon à prendre pour les Rams, et il y aura de toute façon d'autres menaces, que ce soit Anderson au sol ou Woods et Cook, comme tu le disais, dans les airs.
Et il y a un coup à jouer, parce que les Patriots autorisent quasiment 50 yards par match à la réception aux coureurs. C'est Pro Football Outsiders qui fait ce genre de stats. Ils sont 22e en NFL, donc c'est pas forcément leur grosse qualité. Clairement, pour moi, alors j'aime bien CJ Anderson, etc., mais je pense pas que ce soit lui qui puisse vraiment leur faire un match. Faut que Todd Gurley sorte un gros match, quoi. Donc... ce serait quand même vraiment étonnant. Après, à savoir s'il cache une blessure, ce serait pas étonnant en NFL cette période de l'année.
Après, on dit ça, mais oui, il y en a beaucoup qui, de toute façon, traînent quelques bobos et voilà, c'est arrivant jusqu'au bout.
Mais vraiment, en théorie, il doit avoir un gros rôle sur ce match, comme tu le disais, au moins autant à la réception qu'à la course. Et pareil, en termes d'ajustement tactique, j'avais regardé un petit peu sur 2002, quand ils ont joué ce monsieur-là, Marshall Faulk, qui aimait aussi, qui était on va pas dire un des pionniers, mais presque, en tout cas, sur ses coureurs qui étaient quasiment des receveurs. Les defensive end, les linebackers en fait des Patriots sur le Super Bowl, jamais poussaient Marshall Faulk sur la ligne pour faire sauter le timing en fait des Rams, et avaient réussi à perturber son match comme ça. À surveiller aussi si c'est un truc que Bill Belichick veut éventuellement ressortir du placard sur cette rencontre, aller perturber directement Todd Gurley sur la ligne pour bousiller un peu ses timings et les routes des Rams là-dessus. Voilà, c'est aussi un truc qu'il a fait il y a longtemps et qu'on peut surveiller.
On peut le surveiller en effet, mais c'est sûr que en effet, de toute façon, la ligne offensive des Rams, je ne sais pas si tu allais y venir avant qu'on enchaîne, vas-y, je te laisse peut-être enchaîner là-dessus, mais c'est sûr qu'elle aura un rôle prépondérant, parce que la ligne défensive des Pats, on l'a dit, a été capable d'élever son niveau de jeu pendant les playoffs. Mais hormis Trey Flowers, est-ce qu'il y a vraiment une capacité à mettre perpétuellement la pression sur Jared Goff? Ce sera à voir.
On aurait presque pu commencer en fait par ça, tellement on parle de ces matchs-là, des tranchées, qui a gagné les tranchées, etc. Depuis le début des playoffs, j'ai l'impression qu'on fait que parler de ça dans tous les résumés de matchs. On aurait pu commencer par ça. Clairement, la ligne offensive des Rams, c'est une des meilleures de la ligue. Le pass rush des Patriots était bon ces dernières semaines. Ils ont touché 9 fois Pat Mahomes, qui est quand même pas le dernier venu en termes de mobilité. Ils ont provoqué 43 yards de perte de yards rien qu'en première mi-temps contre les Chiefs, donc ils sortent d'un gros match. Mais je suis comme toi, ça reste, alors pas, c'est cruel pour eux de dire à confirmer parce qu'ils sont sur une bonne dynamique, mais ça va être un challenge pour eux aussi.
Et
ça va être une force des Rams qui vont devoir perturber.
Alors je pense que c'est même un challenge des deux côtés, parce que faut pas oublier, alors encore une fois, c'est assez réducteur parce qu'il y a Trey Flowers, mais on sait qu'il y a un Kyle Van Noy également qui est capable d'être aussi efficace au sol que sur la pression, même si son rôle premier, selon moi, ça reste quand même le run stop. Maintenant, c'est sûr que cette ligne offensive des Rams, très clairement, on ne l'attendait pas aussi bonne que ça, mais elle va avoir un gros challenge parce qu'il y a aussi des joueurs assez vieillissants. Je ne sais pas si tu avais donné ta stat des trentenaires, des joueurs plus vieux que
Sean McVay. Non, on en parlait en antenne, mais je ne l'avais pas pour le coup. Mais donc oui, il n'y a que deux joueurs qui sont plus vieux que Sean McVay
et qui sont sur la ligne offensive. Ouais. Donc en l'occurrence, Andrew Whitworth et j'ai oublié son prénom, John Sullivan, tout à fait. Et donc voilà, le challenge aussi, ce sera peut-être de ne pas trop fatiguer cette ligne offensive qui va avoir... qui est capable de, on l'a dit, libérer des brèches sur le jeu au sol, qui va également devoir quand même surveiller les différents blitz, en tout cas les différents gaps que vont tenter d'exploiter les Patriots. Donc, va pas falloir non plus, je pense, faire des drives de 14 minutes du côté des Rams. Je suis pas sûr que ce soit l'objectif de Sean McVay de toute façon, parce que tu le disais, ils font beaucoup de play-action quand même.
Milieu, quoi.
Voilà, mais en tout cas, après, pas les laisser trop longtemps sur le terrain.
Après, Whitworth, il s'est quand même nourri de la haine des fans des Saints pendant toute la semaine. Je pense qu'il a une énergie folle avec ce qu'il a déclaré. Donc, a priori,
Andrew Whitworth, qui est quand même, enfin, c'est quand même à souligner. Hein, on va dire qu'on s'acharne un peu sur les Bengals. Mais voilà, qui fait partie de ces joueurs qui restaient aux portes du premier tour des playoffs avec Cincinnati et qui là avec les Rams du coup arrive au bout, ce sera peut-être une bonne occasion pour lui de bien finir sa carrière en l'occurrence.
Oui, parce que là il peut partir après, alors je ne sais pas s'il a donné des indications de retraite, mais il a 37 ans, donc c'est vrai que là il pourrait partir au sommet.
Mais il est encore très dominant pour un tackle côté aveugle, il est encore très dominant.
Tu l'as dit, ils ont fait une très très bonne saison cette ligne des Saints, et justement les Rams. L'âge de Whitworth faisait partie des interrogations au début de saison, je ne sais plus si on l'avait mis dans la preview, mais je me rappelle qu'on l'avait évoqué en tout cas. Donc clairement ce match-up là des lignes, mais c'est pas une nouveauté, mais ça va être très très important en effet. Je sais pas, tu donnes l'avantage à qui d'ailleurs dans l'esprit, sur le papier, si on fait un poste contre poste, avantage aux Rams ou aux Patriots sur cette opposition ligne offensive, ligne défensive? J'ai envie de dire que sur le papier, la ligne des Rams c'est un peu plus cotée maintenant.
En fait, je m'arrête sur la ligne offensive, mais faut pas oublier aussi qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les deux Tyden, Everett et Higbee, qui sont quand même souvent incorporés aussi, et qui sont capables également de bloquer et de surveiller justement ces pressions de la part de New England. C'est ce qui ferait peut-être un peu pencher la balance du côté de Los Angeles sur ce match-up là, mais c'est pas non plus c'est pas une avance délirante non plus, quoi.
Un petit mot sur les équipes spéciales, parce qu'il y a du très bon de ce côté là on a Greg Zuerlein qui, alors au moment où on enregistre, on vous le dit, l'émission est diffusée lundi, on a enregistré un petit peu en amont, on enregistre le vendredi. Greg Zuerlein portait une botte de protection, alors je sais pas, j'ai jamais le terme en français, protection boot, une attelle,
ça me paraît pas mal,
une grosse attelle. Sur son pied gauche, apparemment il jouait comme ça, déjà blessé, en fait il s'est blessé pendant le match des Saints, Sean McVay dit que c'est pas grave, bon voilà, au moment où on enregistre, on pense qu'il va jouer, il n'y a pas de raison. Donc très bon kicker. Très bon punter aussi, Johnny Baker, auteur d'une passe pour un first down sur le fake punt, la fin de punt cruciale dans le match contre les Saints quand même. Et puis Robert Woods en général pour les retours.
Ça varie, il me semble que depuis le cut de Pharoah Cooper, c'est surtout Joe Johnson.
Oui, c'est vrai, c'est Joe Johnson, autant pour moi.
Mais oui, Woods peut être sollicité également.
Woods peut être... C'est vrai que j'étais étonné qu'il coupe Pharoah Cooper, qui a eu quelques bons retours. Donc, il y a une très bonne équipe spéciale et qui va avoir clairement un rôle à jouer. On l'a vu, Greg Zuerlein, il peut planter à 57 yards pour gagner. Ce sera encore dans des conditions de dôme, a priori, ça se jouera à toit fermé en général, le Super Bowl dans ces cas-là. Donc, là aussi, gros atout quand même, a priori. Même pour les deux équipes, on en parlera pour les Patriots, mais il fallait qu'on en parle parce qu'il y a deux très bonnes équipes spéciales.
Oui, non, c'est sûr. Après, Gostkowski est peut-être un peu plus en retrait par rapport à Zuerlein, qui reste quand même un top kicker de la ligue.
Disons que Gostkowski a l'expérience.
Oui, c'est ça. Il a déjà joué ce type de grand rendez-vous. Mais en tout cas, oui, Zuerlein, s'il est complètement remis par rapport à ce que tu évoquais. Et ses protections actuelles, c'est quand même, on l'a vu contre les Saints, un joueur hyper clutch, 57 yards pour faire gagner son équipe, l'effet qu'il met dans le ballon pour permettre aux Rams d'égaliser et d'arracher la prolongation. Donc il a pas l'expérience, mais en tout cas clairement il a l'air d'avoir le mental et le coup de pompe. Alors après on sait que ça peut changer très vite en NFL, mais en tout cas ça va être un atout. Tu vas enchaîner tout de suite sur les Pats du coup?
Non, mais si t'as un truc à dire sur Ricard, on essaye déjà, je sens déjà certains médias ricains, je regardais sur Twitter tout à l'heure, qui essayaient de nous le présenter comme le facteur X que personne n'attend, quoi.
Non, mais alors, Zuerlein, c'est un facteur important. Moi, en tout cas, je l'ai identifié en tant que tel. Après, de toute façon, je trouve que depuis l'arrivée de John Fassel en tant que coach des équipes spéciales à Los Angeles, c'est vraiment une équipe qui fait énormément de big play à ce niveau-là, que ce soit des coups de pied bloqués, des feintes de punt justement, comme ça a pu être le cas en finale de conférence. C'est quand même de leurs habitudes, c'est une équipe assez fun à avoir joué, et tu le disais, voilà, Pharoah Cooper a été cuté, c'était une mini surprise. Mais voilà, c'est aussi parce que sur les phases de retour, on a une équipe des Rams qui peut être extrêmement dominante. Mmh. Et ça va être intéressant à surveiller contre cette équipe des Pats qui, encore une fois, est souvent disciplinée, enfin, en tout cas, doit être disciplinée dans la vision de jeu de Bill Belichick, même si ça n'a pas été toujours le cas. On l'a vu, par exemple, lors de la dernière action à Miami.
Oui. Oui, ça c'est sûr.
Pour reprendre cet exemple-là. Mmh. Après, il y a des contre-exemples.
Il y a Julian Edelman qui a failli se faire pincer quand même sur un retour de punt aussi en finale de conférence, oui. Qui aurait pu coûter très très cher.
C'est, hein. C'est, oui, voilà. Après, bon, c'est non, de sa faute à lui en l'occurrence.
Ah,
mais
bah oui, parce que je suis pas un
il
expert
a joué avec
en
le feu,
retour de punt, mais ouais, se coller juste derrière un rebond, c'est pas forcément la meilleure idée.
On est d'accord. Après, on a vu que les Pats cette saison étaient capables de bien bloquer des coups de pied. Un joueur comme McClellan, notamment, a fait une excellente saison sur l'équipe spéciale. Ils ont des bons retourneurs, c'est pas aussi fixe que je dirais que les Rams, mais un coup ça va être Edelman, un coup ça va être Patterson, enfin voilà, ils sont capables de trouver des joueurs pour réussir à être explosifs sur retour de coup de pied. Donc encore une fois là-dessus je donnerais l'avantage à Los Angeles, mais bon, très franchement faut clairement pas sous-estimer New England dans ce secteur de jeu.
Bon, juste un chiffre, ils marquent combien de points en attaque les Rams?
C'est une question ou
bah
c'est...
Ouais, on a parlé de toute l'attaque des Rams plus équipe spéciale.
Combien, ah, donc c'est un pronostic que tu
veux. Ouais, un petit pronostic, combien de points ils marquent. Sans donner le résultat du match, mais une fourchette. Est-ce que tu penses qu'ils passent les 25, est-ce que tu penses qu'ils passent les 30 points, puisqu'ils sont à 32 de moyenne?
Bah, en tout cas, pour répondre à ta question, je pense que s'ils passent les 30 points, ils gagnent.
D'accord.
Déjà, première question. Ouais, après, moi, je pense qu'ils marqueraient au moins 20... Ouais, au moins 24 points, je pense.
Au moins 24. Ouais, bah, tiens, j'ai... Tout le monde prédit un Super Bowl offensif. Je suis pas si sûr. C'est le genre de match typiquement qui peut se fermer très très vite. Donc
Oui, je sais pas. Tu sais, l'année dernière, on s'attendait pas à une orgie offensive comme
vrai.
Ça. Je t'aurais dit pareil. Hein. Je t'aurais dit Philadelphie à 30, ça passe. Et ils ont besoin d'en marquer plus que 33 pour gagner.
Mais c'est passé quand même.
On est d'accord.
Statistiquement. Voilà pour les Rams avec le ballon. Petite pause et on passe aux Pats. Oui, une petite relance comme ça au milieu, on avait envie. Quand les Patriots sont le ballon, donc les statistiques, ils sont 4e sur les points marqués, 5e sur les yards, 8e à la passe, 5e au sol. Les Rams en défense, ils sont 20e sur les points encaissés, 19e sur les yards encaissés, 14e contre la passe et 23e contre le jeu au sol. Ça va être la ligne, tiens, on va commencer là par la ligne. La ligne offensive des Patriots contre Aaron Donald et compagnie, et quand je dis compagnie, c'est Ndamu Kongsu, Dante Fowler et du beau monde. C'est quand même une sacrée opposition. Je te donne quelques stats. Un seul quarterback hit et 0 sack autorisé contre les Chiefs pour les Patriots.
Ouais.
2 quarterback hits autorisés contre les Chargers et toujours 0 sack. Donc il n'a toujours pas pris de sack en playoff, l'ami Tom Brady. Mais Aaron Donald se présente en face. 20 sacks et demi en saison régulière. Mais aucun sack en playoff pour Aaron Donald dans deux matchs. Quand même à noter.
Ouais. Enfin bon, oui.
Il fait du boulot.
Un petit peu.
Et un sac et demi chacun pour Ndamu Kongsu et Dante Fowler. En face, David Andrews au centre, Shaq Anderson et Joe Tunney sur les postes de garde. Comment on fait pour contenir tout ça? Est-ce qu'ils peuvent y arriver? Ils ont été très très bons ces dernières semaines, la ligne offensive des Patriots. Est-ce qu'ils peuvent contenir cette armada de costauds des Rams?
Alors très franchement, on disait tout à l'heure que la O-line des Rams c'était bonne. Je suis vraiment bluffé par le niveau de la ligne offensive des Patriots cette année. Alors elle s'est un peu plus orientée sur le jeu au sol, on l'a dit répété au fil des semaines, mais c'est vraiment hyper agressif, j'allais dire militaire, mais enfin c'est pas dans le sens militaire, mais c'est vraiment c'est réglé comme du papier à musique. C'est vraiment hyper. Chacun sait où il doit se déplacer, quel gap il doit ouvrir. Et c'est dans l'exécution, c'est assez impressionnant. Et tu citais quelques joueurs de la ligne offensive. Alors en effet, au centre, ça va être important. Mais je pense sur le jeu au sol, notamment un joueur comme Trent Brown est extrêmement précieux. Le tackle côté aveugle. Alors c'est sûr que ce qu'on regarde un peu plus, c'est le pass pro où il est extrêmement efficace également. Mais sur le jeu au sol, depuis le début des playoffs, je me rappelle notamment du match contre les Chargers où il avait mis au supplice Joey Bosa sur une bonne partie du match. Donc c'est sûr que je sais pas forcément si il sera en confrontation directe notamment avec Aaron Donald, mais en tout cas sur le papier c'est assez excitant. Et là on a beaucoup de joueurs, je parlais tout à l'heure de la ligne offensive des Rams qui était un petit peu plus âgée. Là, on a quand même une ligne offensive qui est dans la force de l'âge, avec des joueurs assez confirmés. Chuck Mason, ça devient une valeur sûre des Patriots. David Andrews, c'est un capitaine et c'est un centre qui s'est fait sa place très rapidement du côté de Foxborough. Donc on a beaucoup de joueurs, encore une fois, besogneux, très physique et parfaitement capable de libérer des brèches pour les nombreux running backs qui seront derrière eux.
Et tu arrives à voir un avantage pour quelqu'un dans cette opposition?
Honnêtement, j'aurais du mal à mouiller. Je dirais peut-être quand même avantage à New England parce que numériquement, oui, alors Dante Fowler a été capable de mettre la pression contre les Saints, on est d'accord, qui eux aussi avaient une bonne ligne offensive sur le papier. Après, je ne sais pas s'ils seront capables de mettre autant la pression sur Tom Brady. Il ne faut pas oublier aussi qu'une des données, et je n'ai pas dans l'idée que New Orleans se soit aussi prononcée, à New England, on a souvent cette habitude de dire, je vous entendais en parler d'ailleurs lors du dernier débrief, on a l'impression que Tom Brady ne fait pas grand-chose. Mais je pense que c'est plus dans le sens où c'est exécuté tellement vite.
Oui, d'accord.
On va pas demander à Brady de garder le ballon 5 secondes.
C'est ça.
C'est des passes qui sont très rapides, très millimétrées. C'est là où Sue et Donald, même en mettant beaucoup de pression, vont pas forcément réussir à mettre le grappin dessus.
C'est exactement là où je voulais en venir aussi. C'est que la réponse de toute façon des Patriots, ça va être autant de la ligne que de la rapidité des passes qu'on va décocher pour alléger la pression sur Brady. S'ils ont pas le temps de venir, de toute façon, il lancera des passes. Et on en revient à cette anecdote. Je sais que je l'ai répété souvent du coup depuis le début des playoffs, mais vraiment cette vidéo où on voyait Joey Bosa équipé d'un micro dans le match de playoff où il disait à un de ses coéquipiers, Melvin Ingram je crois, je suis arrivé là mais il avait déjà lancé le ballon quoi. Et il va trop vite et à un moment Bosa dans la vidéo est à côté de Brady sur le terrain et lui dit mais lance pas si vite quoi, et Brady lui dit si t'arrivais moins vite je lancerais moins vite mais voilà, je pense que ça se joue là aussi. S'ils arrivent à se mettre dans ce petit rythme de passe courte, de passe intermédiaire qu'ils adorent et qui commence à dérouler et que Brady est chirurgical là-dedans,
c'est ça, c'est compliqué aussi. Alors là aussi je prends beaucoup de comparatifs avec les finales de conférence, mais voilà, on a quand même l'attaque des Saints en face avec un bon quarterback aussi, avec également un jeu qui peut être assez écarté, des running backs qui peuvent sortir. On a vu que contre les Saints, même si, tu l'as dit, Donald par exemple, a fait un sac sur Breeze, au final, à force de s'ajuster, ils ont quand même réussi à anticiper les déplacements d'un Alvin Kamara, à bien lire les tracés d'un Michael Thomas. Donc même sans forcément mettre tout le temps la pression, réussir à couvrir les tracés intermédiaires et à empêcher, on dira, les menaces extérieures de prendre de la vitesse. Ça va être un challenge important pour les Rams. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en finale de conférence pour cadenasser au fur et à mesure l'attaque de New Orleans. Et ce qu'ils vont réussir contre New England, en tout cas, ça va être une clé importante parce que je n'ai pas dans l'idée qu'il n'y aura que du jeu profond du côté de New England. Il y a beaucoup de petits joueurs, beaucoup de speedsters, des Edelman, des Hogan, Dorsett qui reste un joueur de petit gabarit même.
Et James White qui est hyper impliqué dans le jeu au sol.
Oui, c'est ça. Mais voilà, si on regarde les receveurs, à part Gronkowski, qui on va se le dire franchement, court plus
et qui est
aussi
plus,
vite.
Qui est plus très rapide.
Voilà, des grands receveurs qui jouent beaucoup sur la prise de vitesse, on dirait, il n'y en a pas tant que ça, ça reste beaucoup de la menace intermédiaire. Et voilà, il y a forcément un facteur important qui sera notamment la gestion de Julian Edelman. On a vu qu'Akib Talib avait rendu une belle copie contre Michael Thomas.
Oui,
mais ce n'est pas les mêmes arguments en face.
Oui, et j'allais te dire, est-ce que Akib Talib il sera forcément sur Julian Edelman? Alors, c'est là aussi où on en revient souvent à la même chose, mais il va y avoir de toute façon un duel de coaching. Wade Phillips, pour le coup, il est beaucoup plus vieux que Sean McVay. Il a plus d'expérience. Il avait fait déjouer les Patriots en finale de conf avec Denver à l'époque où il était coordinateur défensif des Broncos. Et à l'époque, on avait vu du Akib Talib, notamment sur Rob Gronkowski.
Ouais.
Donc à voir si ce sera exploité à nouveau. Et donc à voir aussi, tu le disais, tactiquement, parce qu'on disait ils aiment bien ce jeu de passe rapide, etc. Notamment quand il y a de la zone en face, Brady il découpe. Les Chargers notamment peuvent en témoigner. Les Rams sont pas mal défendus en zone cette année. Est-ce qu'ils vont mettre plus d'hommes à hommes là-dedans aussi? Qui va tenir qui? Ça aussi, ça va faire partie quand même des intrigues de savoir comment ils les stoppent.
Je te rejoins totalement. C'est sûr que ça va être important à surveiller. S'ils s'obstinent à vouloir jouer de la zone, ça va forcément, mais ça va être préjudiciable aussi en début de match contre les Saints. Après, la question, c'est comment tu réussis à trouver la réponse, on dira, au challenge qui t'est lancé. Et nul doute que Josh McDaniels, avec son attaque qui est parfaitement calibrée, le rouleau compresseur qu'il arrive à mettre en place, il va pas se gêner pour distribuer ses cartes au fur et à mesure. Donc c'est sûr que Gus Bradley a pas réussi à trouver une solution en demi-finale de conférence, Bob Sutton non plus. Là, très clairement, Wade Phillips, c'est, on dira, une taille au-dessus. C'est vainqueur du Super Bowl, en effet, avec les Broncos, avec une grosse part de l'escouade défensive. Donc là, ça va être exactement la même chose. Si les Rams, si Wade Phillips veut réussir à récupérer une deuxième bague, il va falloir réussir à répondre à ce challenge-là. Et peut-être, je te rejoins, mettre peut-être un petit peu plus de d'homme à homme, quitte en effet à jouer sur des match-up un petit peu plus atypiques, un petit peu plus farfelus. Après, honnêtement, je pense que du côté du backfield de Denver, il avait peut-être plus de ressources.
Oui.
Je suis pas fan de la saison de Marcus Peters, très franchement.
Oui, parce que j'allais te dire que par contre, à Denver, alors c'est ça, hein, c'était pas du tout la même config de défense, le pass rush venait pas des mêmes endroits non plus. Et en effet, c'était Chris Harris, c'était Akib Talib, et il y en avait un troisième qui était très bon et dont le nom m'échappe.
Il y avait Bradley Roby qui avait pas fait un mauvais match.
Il y avait Bradley Roby, ouais.
Si les choses ont un peu changé de
trio majeur.
Donc
voilà, là, en effet, si tu mets Talib sur Gronk, il te reste Marcus Peters et Nickel Robey Coleman. Sur Julian Edelman, sur Chris Hogan, sur Philippe
Dorsett. La question, c'est de savoir qui Robey Coleman va shooter pour.
Voilà.
Non, mais voilà. En tout cas, on sait que Marcus Peters, voilà, est un gambler dans son jeu. Voilà, ça passe ou ça casse. Et contre Tom Brady, ce genre de choses-là, voilà, si t'es pas dans le bon timing. Voilà, on a vu que je prends l'exemple d'il y a 2 ans contre les Falcons, par exemple, avec notamment le pick six de Robert Alford. Quand ça fonctionne, très bien, mais du coup après, quand t'es plus dans le timing, quand je sais pas, tu commences à fatiguer, comme là encore, ça avait été le cas il y a 2 ans en deuxième mi-temps avec la défense d'Atlanta. Bah, et honnêtement, ton profil de gambler, il finit par être un peu rédhibitoire.
Alors, on parle beaucoup de l'attaque en général, du rythme des systèmes des Patriots, etc. Est-ce qu'ils ont des individualités? On parlait notamment de Kansas City, par exemple, qu'on avait beaucoup. On a même parlé de Brandon Cooks, de Todd Gurley, etc. Est-ce que chez les Patriots, il y a des individualités incontournables qui ressortent? Parce que j'ai presque du mal à en ressortir. Le Gronk, tu l'as dit, court plus aussi vite. Il est sorti de sa boîte sur des grosses actions.
Edelman, quand même.
Voilà, j'allais dire, Julian Edelman, en fait, est la seule valeur sûre. Mais je serais pas étonné qu'on voit pas du tout Dorsett et qu'on voit beaucoup Hogan ou l'inverse.
Ah oui, non, mais après, que ce soit qu'il y ait une variété que. Pas qu'il n'y ait pas de joueurs essentiels, mais oui, en tout cas que.
Alors je parle dans les airs, hein, évidemment. On parlera de Tony Mitchell après.
Voilà, mais. En effet, on peut changer de receveur en ayant plus ou moins la même efficacité, parce qu'on a vu, il me semble que Chris Hogan, je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, a pas été toujours parfait. Mais en tout cas, bon, il y a pas forcément besoin d'avoir un match à 200 yards pour Julian Edelman, comme par exemple, on prenait l'exemple des Saints, l'impact d'un Michael Thomas est hyper important. Là, c'est sûr que ça peut changer. Après, voilà, de ce qu'a montré Edelman depuis le début de ses playoffs. Voilà, en termes d'individualité vraiment forte, que ce soit clairement. Mentalement ou d'un point de vue jeu,
on va pas se lancer dans le classement, mais c'est un des meilleurs receveurs des playoffs.
En termes d'impact,
il est là. On avait dit, on a fait un peu l'avant de la défense avec la ligne, on a parlé de la couverture. La semaine dernière, on avait dit que les linebackers seraient très importants contre les Saints, parce que notamment, il fallait contenir Alvin Kamara, parce que voilà. Là, c'est pareil, ils vont encore avoir du boulot avec James White, avec Sonny Mitchell, avec Rob Gronkowski aussi, enfin, ça va être aussi très important. Et James Devlin, d'ailleurs, on parlait de là, il y a aussi un fullback dans cette équipe. Donc voilà, là, ça va être aussi décisif, comme la semaine dernière, la prestation des linebackers des Rams. En aparté, je vous invite à lire le portrait de Samsou et Boukam qui est sur le site. Mais donc voilà, les linebackers, ça va être aussi très important, que ce soit dans les airs avec James White ou à la course, ils vont devoir gérer cette double menace permanente, en fait.
Oui, bah c'est exactement ce qu'on leur avait demandé, c'est d'être hyper discipliné dans dans les deux secteurs de jeu, très clairement. Et là, en effet, c'est sûr que le comparatif avec le match des Saints, on était un petit peu plus quand même dans l'esquive avec un Alvin Kamara, même si bon, Mark Ingram, voilà, c'est un peu plus dans le physique, mais en tout cas, ça restait sur des tracés un petit peu, on dirait latéraux, ou voilà, pour être un petit peu plus dans la prise de vitesse, etc. Là, du côté des Pats, il y a des profils, en effet, hein, James White, c'est un peu plus dans l'esquive également, mais bon, on va taper à la porte pour demander si on peut rentrer, quoi. On va pas se gêner pour mettre un coup de botte.
Oui.
Et tu le disais, avec James Devlin qui est excellent depuis le début de la saison et qui est capable de libérer des brèches si la ligne offensive a pas suffisamment libéré les gaps. Donc non, très franchement, ça va être un duel assez incontournable. Et là, pour le coup, j'anticipe un peu ta question, mais je donnerais quand même l'avantage aux Patriots.
Ouais.
À surveiller quand même, tu l'as pas cité, voir ce que va apporter un joueur comme Rex Burkhead. On sait qu'il est souvent bien incorporé. Alors un petit peu moins, j'ai la sensation depuis quelques semaines. Mais on a vu que par exemple la semaine dernière à Kansas City, il y a des quatrièmes qui sont pas passés. Donc faut avoir son utilisation et surtout son efficacité contre, encore une fois, un front seven de Los Angeles qui peut être hyper agressif. On l'a vu la semaine dernière au Superdome.
Un autre match-up très intéressant, toujours dans ce domaine-là. Là, on a beaucoup parlé des receveurs dans les airs, des coureurs dans les airs, pardon. C'est évidemment le sol vraiment pur et dur, la course. Alors, je suis pas fan de ces stats d'habitude, mais celle-là est quand même significative. Depuis 2000, quand les Patriots, donc 2000, c'est Herm Brady Belichick, hein, quand les Patriots sont un coureur à plus de 100 yards, c'est 11 victoires, 0 défaite en play-off, 51 victoires, une seule défaite en saison régulière. C'est quand même hip. Je ne pensais pas que la stat était délirante à ce point-là. Quand ils ont un coureur à 100 yards, en gros, ils gagnent.
Donc un seul.
Un seul. Un seul coureur à 100 yards. Alors là, après, ça peut se répartir hein, aussi avec
oui,
les,
oui,
les
c'est
coureurs.
Sûr, c'est sûr.
Mais c'est, voilà, c'est d'autant plus délirant, d'ailleurs, que c'est une équipe qui utilise beaucoup de comités depuis des années maintenant. C'est vital, sachant quand même que les Rams, c'est vraiment une équipe à deux vitesses sur ce qu'on a vu depuis septembre. C'est-à-dire qu'en saison régulière, ils autorisent 5,1 yards par course. C'est le pire en NFL. Depuis le début des playoffs, ils ont limité les Cowboys à 50 yards, les Cowboys donc à 50 yards et les Saints à 48 yards. Donc, quel Rams on va avoir ? C'est un peu la question qu'on avait posée avec la défense des Chiefs aussi la semaine dernière. Est-ce qu'on a celle de la saison régulière, celle des playoffs ? Là, c'est vraiment la même chose. Si on a les Rams de la saison régulière à 5,1 yards par course, ils se font découper, c'est fini. Voilà, c'est plié, au revoir. Au bout de deux quart-temps, il y a 21-0. Il y a eu 28 minutes de chrono pour les Patriots sur 30 et merci, au revoir. Si ils défendent le plomb au sol comme ils ont fait contre les Cowboys et les Saints, c'est un autre match. Mais là, alors là, on peut pas savoir quoi.
Ouais, ouais, non, mais c'est après là, en l'occurrence, ce qui est intéressant avec ta stat, c'est que le coureur à 100 yards, on n'a pas de mal à potentiellement l'identifier.
Là, c'est Sonny Mitchell.
C'est ça, parce que tout à l'heure tu me parlais d'individualité forte. Alors Sonny Mitchell, il a peut-être pas encore ce statut-là. Aussi de par le fait, en effet, qu'il y a un comité de coureurs, mais. Bon, voilà, maintenant c'est lui qui est taille patron au niveau du jeu au sol, et j'en ai parlé plus d'une fois cette saison. Je pense qu'à terme, ce sera à lui qu'on va donner les rênes de l'attaque, en attendant de trouver le vrai successeur de Tom Brady au poste de quarterback dans les années à venir. C'est sûr que là, si ça se réalise, et ça peut se réaliser avec Sonny Mitchell, il y aura très clairement un ascendant pour les Pats, encore plus avec les stats que tu évoquais du côté des Rams. Après. Pour le reste, ce qui va être assez particulier dans ce challenge-là, c'est que contre Dallas, ils ont eu un running back à affronter.
Oui, alors
qu'ils ont bien cadenassé. C'était... Contre les Saints, ils en avaient deux.
Ouais.
Qu'ils ont bien cadenassé. Bon, bah là, a priori, ils en auront au moins trois.
C'est vrai.
Donc, c'est une petite montée
la
en puissance.
Augmente.
Voilà, ouais. C'est ça. C'est un peu comme Brandon Cooks, ils se font leur programme à la carte. Ils montent les
c'est
difficultés,
vrai.
Le programme.
Mais clairement, on peut dire hein, maintenant, les Patriots, c'est une équipe d'abord de sol. C'est pas une insulte à Tom Brady de dire
non,
que c'est...
Mais non, mais encore une fois, c'est une équipe qui est axée sur la vitesse d'exécution. Vitesse d'exécution, ça veut dire lancer relativement rapide et jeu à la course, je sais pas comment ils appellent ça, mais du smash mouth football quoi.
Ouais.
Voilà, tu rentres dans l'art de ton adversaire, tu incorpores de la vitesse systématiquement et puis également du physique avec des porteurs qui sont relativement lourds. Donc je réponds un peu tardivement à ta précédente question, mais le visage des Rams, ça va dépendre beaucoup de ce deuxième rideau qui reste quand même relativement inexpérimenté, des Corey Littleton, des Samson et Boukham dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas forcément des joueurs qui ont énormément d'expérience. Donc on n'a pas de mal à se rendre compte qu'il y aura une discipline du côté des Patriots. Est-ce que les Rams vont être totalement disciplinés sur l'ensemble d'un match pour réussir à appliquer les consignes de Wade Phillips? Ça va être une donnée d'importance, et c'est aussi pour ça que j'aurais tendance à donner l'ascendant à New England dans ce secteur-là.
Les équipes spéciales, on y a un peu touché tout à l'heure, on disait Rob Gronkowski, Steven Gostkowski, ça sonne un peu pareil, excusez-moi. Donc Steven Gostkowski, très bon kicker, expérience de ces moments-là, il a gagné des Super Bowls. Bon, on est à peu près fixé sur ce qu'on a. Au niveau du punt, c'est plutôt solide aussi. Le fameux punter gaucher pour déstabiliser le retourneur hein, que les Patriots aiment bien. Et puis au niveau des retours, ça peut être pas mal. Moi, j'aime bien Cordarrelle Patterson sur les retours. Pas du tout le même style vif qu'un Robert Woods, par exemple, ou que le Pharoah Cooper qu'ils avaient avant, les Rams ou quoi. Très costaud. Il a l'air énorme, Cordarrelle Patterson, quand il court. Mais j'aime bien. Ça peut être pour moi une différence sur un petit retour de punt là, qui fait valser
c'est,
un peu.
C'est aussi ça. C'est qu'encore une fois, j'ai pas dans l'idée que ce soit le... Justement, j'ai pas dans l'idée que son gabarit lui rende toujours service. en ce sens que il n'a peut-être pas forcément la capacité d'être aussi, il n'a peut-être pas des appuis qui pourraient être aussi fluides que d'autres receveurs un petit peu plus dans un profil de speedster. Après, il a cette capacité, c'est que il est capable d'avoir une prise de vitesse fulgurante. Et si on lui donne les bons espaces et du côté des pattes, il y a quand même des joueurs qui sont capables de créer des espaces. Je parlais de McClellan tout à l'heure. Faut quand même pas oublier qu'il y a un certain Matthew Slater dans cette escouade de special teamer, un joueur qui est régulièrement au Pro Bowl, qui est un des cadres de cette équipe-là et qui, voilà, qui est aussi un relais important du coaching staff sur ce type de phase de jeu. Donc, très clairement, s'il y a des brèches, un joueur comme Cordarrelle Patterson est capable de s'en délecter, en effet, de faire des big plays, voire pourquoi pas d'aller marquer un touchdown lui-même.
Voilà donc pour le point contre les Patriots. On le ballon. Allez, un petit prono de points aussi. Moi, je pense qu'ils mettent la trentaine.
Je sais pas.
Je me mouille.
Allez, je me mouille pas, j'y vais.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
4 aussi, hop.
Allez, 24-24, comme ça on est bien. On passe aux pronos. Non, on passe aux quoi ? On passe aux questions ? Allez, on passe aux questions. Vos questions spéciales Super Bowl pour cette preview. On commence avec une question de Jujuju. Comment expliquer les récents rapports de blessures où il n'y a personne ou presque sur les listes alors qu'en saison régulière on y voit une dizaine de noms par équipe, une différence entre la saison régulière et les playoffs à ce niveau-là?
Ça m'a pas...
A priori, alors c'est vrai, il y a zéro personne sur le rapport des blessures des Patriots, sur le match précédent, et donc du coup je crois qu'il n'y en a pas, et sur celui des Rams au moment où je vous parle, je crois que du coup c'était Sid Anderson malade, The Airline son pied, et il y en avait un troisième dont le nom m'échappe, mais c'est que du... Je pense que c'est surtout de la chance incroyable de ces équipes cette année.
Ah oui, je pense que les Patriots, pourtant ils sont souvent en forme quand même depuis ces dernières années, mais là en l'occurrence, c'est sûr que oui, toutes les planètes se sont alignées au cours de cette saison pour faire en sorte que les joueurs restent en forme. Ouais.
Josh Gordon avait une nouvelle chance d'atteindre les sommets. Est-ce que c'est le gâchis de l'année? Question d'une pierre de Coubertin. C'est vrai qu'on oublie, hein, mais Josh Gordon était dans cette équipe jusqu'à la semaine 15, je crois.
Ouais. Bah, le gâchis de l'année, je pense qu'il est un petit peu derrière Kareem Hunt quand même, par exemple.
C'est vrai, il y a Kareem Hunt aussi. Ouais.
Voilà, mais bon, c'est sûr que. Bon, c'est, encore une fois, c'était un pari, c'était quelque chose de risqué qu'ont tenté les Pats. Bon, voilà, ça s'est pas fait.
Bud Fumbler, sans vouloir enlever de mérite à Brady, au fond, est-ce que vous ne pensez pas que tant que Belichick sera là, la dynastie des Patriots durera avec ou sans Brady? Cette faculté a toujours élevé le niveau de ses joueurs. Même les plus anonymes au moment clé, personne n'arrive à le répéter autant.
Oui, alors ça m'amuse parce que j'ai vu quelques commentaires qui m'ont fait un peu rigoler sur le site, mais bon, apparemment on a dit que Brady ne se résumait qu'à Bill Belichick.
Ce
bon,
ce que je vous invite à écouter les émissions précédentes, c'est oui, vraiment pas ce qu'on a dit.
C'est clairement pas ce qu'on a dit, mais bon, c'est pas très très grave.
Je me rappelle de l'épisode 177, très précisément, c'était il y a longtemps, mais c'était après une victoire au Super Bowl où j'avais débattu contre Raphaël que Tom Brady était plus grand quarterback de tous les temps devant Peyton Manning, et je crois que c'était avant le 28-3. Donc,
Non mais encore une fois, la question c'était, attends, rappelle-moi.
Est-ce que ça durera pas toujours avec Belichick et que ça enlève du mérite à Brady? Et alors, avant que tu le dises, moi justement, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu disais, ils exécutent bien, ils exécutent rapidement, etc. Et en fait, tout dépend de ce que vous pensez de ce que doit être le meilleur quarterback de tous les temps. C'est un débat sans fin. Hein. Mais si vous pensez que le meilleur quarterback de tous les temps, c'est le mec qui exécute au mieux le plan de jeu pour faire gagner son équipe. Bah en effet, Brady, il est pas loin de ça. Parce que c'est une machine à exécuter le plan de jeu. Alors... C'est peut-être pas un ordinateur ou un phénomène physique, mais c'est une machine à exécuter le plan de jeu. Et pour moi, ça en fait en effet le meilleur. Si son truc, c'est d'exécuter au mieux ce qu'il faut pour battre l'adversaire, à la fin, moi, je veux bien ça. Hein.
Mais encore une fois, alors, je vais pas trop partir dans des hors sujets, mais c'est ce qu'on a toujours dit et répété, notamment cette fameuse histoire, cette fameuse lubie des quarterbacks de système. Faut pas confondre ce qu'on dit sur les quarterbacks de système NFL et les quarterbacks de système college football, où c'est pas la même chose qu'on demande au quarterback, et du coup c'est ce qui complique L'arrivée des quarterbacks universitaires qui ont forcément un panel beaucoup moins établi quand on leur demande de faire des choses un petit peu poussées en NFL. On peut être un quarterback de système en NFL et bonifier mais 100 fois plus qu'un autre quarterback le système en question. Je veux dire, les Patriots, ils ont un système, mais je veux dire, c'est pas un système hyper novateur, c'est le système Enar Perkins, je crois, c'est leur système offensif. Enfin, c'est un système qui est utilisé par tout le monde en NFL, mais c'est un système qui est quand même extrêmement bien huilé et dans lequel Josh McDaniels, on l'a dit tout à l'heure, incorpore beaucoup de vitesse, d'explosivité, en tout cas de rapidité d'exécution. Et Brady est parfaitement capable de faire ça, et il le fait, mais 5, 10, 20 fois mieux que d'autres. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Le New England ne se résume pas qu'à Belichick.
Ah non.
Qui est capable de faire son travail d'ajustement et en effet qui, on l'a dit plus d'une fois, est capable de rentrer dans la tête de des coachs adverses. Mais voilà, je reprends l'exemple du match il y a 2 ans contre Atlanta. Voilà, on a une première mi-temps où Brady il est complètement au fond du trou. Mmh. Et voilà, et s'ils ont un autre quarterback, les Patriots, et bah, peut-être pas. Qu'ils n'ont pas un quarterback qui arrive à le remettre dedans, comme ça a été le cas de Brady.
C'est ça. Et c'est notamment sa capacité à exécuter à la perfection par séquence de manière incroyable, et notamment dans le clutch.
Oui, c'est bien sûr.
Sur le match, sur le dernier match contre Kansas City, les passes qu'il complète sur des troisièmes temps, c'est un robot le mec. Et moi, je veux ça pour mon quarterback. Je veux que le mec ce soit un tueur à sang-froid dans le clutch et qui exécute à la perfection.
Bien sûr.
Je m'en fous qu'il fasse une échappée de 10 yards, qu'il lance le ballon. S'il a juste besoin de reculer, d'exécuter à la perfection sa troisième tentative, qu'il trempe pas, que la passe elle passe tout droit, moi c'est tout ce que je veux. Donc
c'est ça.
Donc voilà, c'est non, Tom Brady a immensément de mérite là-dedans, il y a aucun souci là-dessus. Et je pense que Belichick le sait très bien puisqu'il s'est jamais débarrassé de lui aussi. On peut voir ça comme ça.
Ah oui, non, mais bien clairement.
C'est-à-dire que s'il était vraiment si disposable que ça, il l'aurait mis dehors.
Et puis, honnêtement, on peut penser ce qu'on veut, mais Robert Kraft s'est jamais caché, le propriétaire, sur le fait que. Alors, il donnait pas plus de crédit à Brady, mais en tout cas, il l'adore vraiment. Et je pense que c'est pas, il omet pas le mérite de Belichick. Je pense aussi qu'il se rend compte qu'il a un quarterback qui bonifie de manière exponentielle ce qui est demandé par le coaching staff.
Comme c'est quand même, j'aime bien quand les Ricains disent, les joueurs disent, c'est le sport d'équipe ultime. Mais il y a de ça. Et quand t'entends des James Harrison dire, je suis arrivé aux Patriots, je voulais le détester, mais en fait, c'est le coéquipier idéal, je pouvais rien dire. Ça fait partie aussi de ça, quoi. Si le mec qui tient un vestiaire, qu'il a pas d'ego et qu'il est là à s'arracher toutes les semaines et qu'il a 41 piges et qu'on le voyait contre les Chiefs, ça joue aussi. Question Alexandre Nico, salut l'équipe. Ce match est-il la boucle que Brady veut boucler avant de tirer sa référence? Non, je plaisante. Plus sérieusement, les Patriots et les Rams sont deux modèles différents qui est basé sur le collectif. Alors, un qui est basé sur le collectif, l'autre sur l'ajout de free agent à fort potentiel. Ça prouve-t-il qu'il n'y a pas de recette préétablie pour réussir en NFL ou au contraire, le modèle Patriots est l'exemple sur le long terme et le modèle Rams sur le court terme? Alors, juste pour précision, j'ai vu la stat, les deux équipes ont exactement le même nombre de joueurs qu'elles ont draftés. C'est-à-dire que dans chaque effectif, elles ont 29 joueurs qu'elles ont draftés et tout le reste, c'est des
ajouts. Ça dépend où tu les as draftés.
Voilà.
Tu peux avoir beaucoup de cinquièmes tours.
Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, elles en ont 29 chacune qu'elles ont drafté, donc il n'y a pas un déséquilibre non plus total entre les deux modèles. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le sens où les Patriots ont quand même tendance à être agressifs, peut-être moins sur la free agency, mais sur les trades. Donc, dans les faits, je ne suis pas sûr que le modèle soit si différent.
L'année dernière, c'est ce qu'ils avaient fait avec Brandin Cooks, par exemple. Ouais. L'année dernière, ils avaient été hyper agressifs. Alors, il y avait Cooks, Gilmore aussi qui était arrivé. Ils avaient été vraiment très agressifs via la free agency. Via la free agency et du coup, via les trades, notamment pour Brandin Cooks. Mais oui, de toute façon, c'est pour ça que... On aura sûrement l'occasion d'en reparler avec les coachs qui vont être engagés. Il y en a un ou deux, je crois, d'ailleurs, sur ce match-là.
Les coachs, Brian Flores et Zach Taylor.
Et tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup cette manie de vouloir absolument copier un modèle, etc., etc. Alors qu'on se rend compte que, de toute façon, c'est souvent cyclique. Mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de modèle qui copié sur une autre équipe, va marcher. On va souvent dire, oui, alors les assistants d'Andy Reid fonctionnent. Oui, enfin, ça dépend aussi comment ils sont encadrés, comment ça se passe, comment ils gèrent le salary cap.
Après, je pense que la leçon des deux, c'est surtout de profiter des opportunités. C'est-à-dire que les Rams, pourquoi ils ont blindé les free agents chers, etc., c'est parce qu'ils sont sur le contrat rookie de Goff.
Exactement.
Et qu'ils peuvent en profiter.
De Gurley aussi, non?
Oui, Gurley, il doit rentrer dans son extension cette année ou l'année prochaine, parce qu'il a signé une grosse extension.
Oui, en tout cas, voilà. C'est, quand t'as tes deux stars offensives qui ont un mini contrat, c'est sûr que tu peux te permettre de prendre
les
plus
Patriots,
de
risques. Ils ont un Brady qui prend pas cher et ils font des coups, ils aiment bien faire des coups. Tu parlais de Trent Brown, le tackle, c'est l'exemple total. Ils ont laissé partir Ned Solder qui a coûté 15 millions par an aux Giants. Giants. Ils récupèrent un choix compensatoire pour Ned Solder. Ils vont récupérer un troisième tour. Et ils ont dépensé qu'un troisième tour pour le remplacer par Trent Brown, ouais, qui est très bon et qui leur coûte, je crois, un million ou, enfin, une, ou deux, qui coûte voilà, un dixième du prix de Ned Solder. Et ça, c'est des coûts énormes, évidemment.
Ouais, bien sûr.
Mais il faut des bons front office pour les réussir, évidemment. Question de Tubeluff Martoni. En tant que fan des Saints, je me voyais déjà prendre ma journée du 4 pour pouvoir regarder tranquillement le Super Bowl. Aujourd'hui, je me tâte même à regarder une heure de match. Avez-vous des arguments pour tenter de me faire veiller un peu? Je le dis tout de suite, il y a Pedri Topaz qui lui a mis une bonne réponse. C'est vrai que les meilleurs Super Bowls sont ceux des passes de Brady, fait avéré. Alors, je ne dirais pas tous les meilleurs, mais c'est vrai qu'ils sont souvent très bons quand même, les Super Bowls des Patriots.
Ils sont souvent très accrochés en tout cas.
C'est ça. Il y a du suspense, il y a du drama.
Je n'ai pas souvenir d'un match où les Pats se sont baladés ou non, ont été baladés.
Bah, victoire à la dernière seconde, enfin dernière seconde contre les Rams la première fois, c'est serré contre les Panthers et les Eagles. Eagles aussi.
Les deux défaites contre les Giants, ça joue sur le dernier drive.
Ah, drama de fou. Le 28-3, bon, on en reparle pas. Le Seahawks, il était hyper accroché. L'interception à la dernière seconde. C'était quand même assez fou. Donc, Et le Eagles, son dernier, ça pétarade dans tous les sens.
Et puis, globalement, au-delà des pattes, c'est vrai que ces dernières années, on va quand même pas se plaindre. On a souvent des Super Bowls qui restent relativement accrochés. Je pense, à part. Alors, c'est vrai que le Broncos-Panthers n'était pas délirant non plus et qu'il y avait eu la fessée des Broncos face aux Seahawks.
Oui.
Mais bon, globalement, c'est pas.
Ces dernières
plus,
années, ça va.
Oui. Même le Baltimore-San Francisco, où Baltimore prend les devants, San Francisco revient. Enfin,
c'est plus la coupure d'électricité qui nous avait coupé les pattes au niveau de l'énergie.
Aussi,
hein.
Ouais. Mais en tout cas, on a souvent des beaux Super Bowls et c'est sûr que. Voilà, avec les Pats, on est quand même rarement déçu au niveau intensité et suspense.
Ouais, et puis qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, il faut regarder parce qu'il va être sur TF1 cette année, donc il faut soutenir le Foot US sur TF1 et on va bientôt, vous aurez bientôt une interview d'ailleurs des gens qui vont commenter le match sur le site, donc n'hésitez pas à découvrir aussi une nouvelle chaîne qui diffuse.
C'est ça, et puis tout simplement, t'en parlais, il y a quand même.
Puis c'est le Super Bowl,
non, mais c'est quand même deux équipes où on a un match-up entre deux forces des head coach.
Oui.
Voilà, la grosse attaque de McVay, ce qu'il a réussi à mettre en place dès son arrivée à Los Angeles et ce qu'arrive à mettre en place depuis plus de 20 ans Belichick, peu importe les coordinateurs défensifs qui sont avec lui.
Et puis dans l'autre sens, Dwayne Wade contre Josh McDaniels.
Dwayne Wade ?
Dwayne Wade.
C'est pas vrai.
Wade Phillips. Mais il y a Wade dedans, donc Wade Phillips. C'est pas tout à fait le même gabarit.
Non, pas vraiment.
Côte à côte, j'aurais du mal à les confondre.
Alors, il est un peu maigri, Wade, quand même.
Ouais,
t'inquiète
ouais,
pas.
C'est vrai. Hello, la Dream Team. Question pratique. Quelle bière conseillez-vous devant le Super Bowl? Alors, je bois pas de bière, Camille.
Celle qui me fait dire Dwayne Wade.
C'est ça. Camille, il est plus fort que moi en bière. Camille, un nom à la volée ou.
Une porteur,
dit Camille. Je ne sais absolument pas ce que c'est.
Non plus.
Bon, mais Camille a dit une porteur. Vous pouvez le croire sur parole. Question imagination. Que pourrait-il arriver de dingue durant le halftime show? Blackout électrique, Adam New Nipplegate, cascade non prévue d'un artiste, prestation surprise, Trump faisant une collecte pour financer son mur. Bon Super Bowl à tous. Qu'est-ce que tu voudrais voir au halftime show alors? Est-ce que tu voudrais que Donald Trump soit dans le stade par exemple? Et qui rentre sur le terrain au milieu comme ça, à la mi-temps, en disant « c'est moi la star ».
Alors écoute, officiellement, je ne suis pas encore parti. Donc,
c'est vrai.
Je n'ai rien à dire sur Donald.
J'hésitais à ce qu'on fasse, à ce qu'on commence l'émission, tu sais, en ce que tu sortes ton passeport et qu'on fasse une chanson « Oui, il a son passeport, il a son passeport ».
Non, j'avais vu, c'était quoi toutes les possibilités
Nipplegate, cascade non prévue. Oui, un mec qui tombe, c'est toujours rigolo, même si c'est cruel, mais bon. Adam Levine qui tombe pendant la première chanson.
Ouais, pourquoi pas. Ça peut être drôle.
Et puis tu sais, un truc, pas gravement, mais tu sais, le mec, c'est un peu fou la cheville, il arrive pas à se relever, et puis il retombe, et puis il reste par terre, et puis tous les feux d'artifice démarrent sans lui. Tu vois, je sais pas.
Une baston entre Travis Scott et Big Boy.
Ah ouais, bah ouais, pourquoi
ça
pas.
Ça peut être sympa.
Pourquoi pas.
Je sais pas. Ou même avec Adam Levine, je sais pas, il se marche dessus, mais pousse-toi, c'est moi la vedette, mon show.
Ou un Nipplegate entre Travis Scott et Big Boy. Il y en a un qui arrache le téton de l'autre.
Ça peut aussi. En tout cas.
Ce serait inattendu.
En tout cas, pour nos amis fans des complots, faut quand même rappeler, troisième année que Trump est à la Maison Blanche, troisième année avec les Pats au Super Bowl.
C'est vrai. C'est vrai, c'est assez incroyable quand même. Attendez, je regarde un petit peu. Très en vue au tour précédent, le pass rush des Pats, notamment Von Noy, ne va-t-il pas être complètement éteint par la ligne offensive des Rams? C'est ainsi laisser un boulevard à golf sur la route de son titre de MVP du Super Bowl. Hashtag exagération, c'est Lambeau Squirrel. C'est un peu trop.
Un peu. Rendu compte avant la fin.
Hop. Jean Bassoncou, à votre avis, Jeff Fisher supportera quelle équipe?
Mais alors, tu sais que je suis pas sûr qu'on en avait parlé, mais l'année dernière, Nick Foles donc affronte les Patriots. Et là, c'est encore un ancien protégé de Jeff Fisher, un ancien drafté c'est même vrai. De Jeff Fisher qui affronte New England.
C'est vrai.
C'est un peu le Duke Collins de la NFL, Jeff Fisher.
Le Duke Collins, pour comme s'il a formé Collins. Michael Jordan.
Bah, par exemple, oui.
Ouais, ouais. Mais il en a formé d'autres ou juste.
C'est ce que l'histoire retient.
C'est un formateur de talent, c'est ça. Il sera ignoré.
Voilà, c'est ça. Et on dira, ouais, 7-9, mais que vaut un bilan à côté des prestations de moult joueurs. Pourquoi on rentrait en Diri des pas de Jeff Fisher?
La satisfaction. La satisfaction de savoir qu'il a porté à maturation tous ses quarterbacks
combattus
les Patriots.
En tout cas, il aura appris tout ce qu'il ne fallait pas faire.
Brandin Cook sera-t-il blacklisté en cas de deuxième défaite d'affilée au Super Bowl? C'est toujours Jean Basson Coup. Bon, non, le pauvre, ce serait dur, mais.
Oui, quand même. Oui, bah, c'est aussi pour ça qu'il est quand même un peu revancheur, parce qu'au-delà du fait d'affronter les Patriots, qui était son ancienne équipe, il y a quand même un Super Bowl voilà, où malheureusement, il a dû voir à peu près 5 minutes du match.
Et le soutien démonstratif de Trump pour les Patriots n'est-il pas un boulet pour les fans? Bon, après, ça, c'est des avis personnels, ouais. Hein, on va dire. Alors, pour que le. Alors, en Pro Bowl, non, désolé, hein, on a dit qu'on faisait un thème sur le Super Bowl. De toute façon, il sera passé le Pro Bowl quand vous verrez cette émission. Ouais. D'une pierre deux coups, Bertin, combien d'années sans présence au plus haut niveau faudra-t-il pour que les fans de la NFL ne soient plus écœurés par New England? Alors, ça, c'est une première question. Combien d'années dès qu'ils partiront?
Oui, ça dépend. Encore
c'est Brady et Belichick. Et Raphaël a répondu.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu ça. Ouais. Mais
je pense que c'est une fois que Brady et Belichick
sont
partis.
Oui, mais c'est sûr. Après, c'est toujours la même chose. Je pense que oui, alors, il y a le côté, en effet, ultra-domination. C'est vrai aussi, je pense qu'il y a ce côté un petit peu image. Et je trouve, je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça, mais je trouve notamment que les déclats de Brady et de Edelman pendant les campagnes de play-off, ce n'est pas forcément ce qui aide aussi à apprécier cette équipe. Alors, j'imagine qu'ils s'en foutent complètement, hein, et ils ont le droit, mais ce n'est pas forcément ce qui aide également à apprécier cette équipe au-delà du Massachusetts. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas de mal à contester l'ultra domination de cette équipe là. Après, quand on est déjà ultra dominant, bah ça enquiquine un petit peu les autres. Si en plus on a tendance à dire bon bah voilà.
Mais tu sais, moi je vais te le dire, ils manqueront à tout le monde quand ils seront partis.
Oui, non mais bien entendu.
Ils manqueront ceux qui les aiment comme ceux qui les détestent, ils leur manqueront, parce que ceux qui les détestent, ils ne sauront plus où aller, parce qu'il y a pas de gens aussi détestables entre guillemets. Évidemment, je dis entre guillemets parce qu'ils sont éventuellement ils ont évidemment rien fait humainement pour mériter qu'on les déteste. Hein. On les connaît pas personnellement, mais il y a pas de gens sur qui ça pourrait se reporter immédiatement si demain ils prennent leur retraite. Donc je pense des Odell Beckham, des Cam Newton, ils ont pas gagné de titre, c'est pas pareil. Tu vois, je sais que c'est les deux premiers auxquels je pense quand je vois nos mentions Twitter par exemple. Mais il y a pas de dynastie comme ça qui écrase tout le monde. Et ceux qui les aiment évidemment, ils leur manqueront. Qui sont selon vous les trois meilleurs joueurs des Rams cette saison? Question numéro 7, même question pour les Patriots.
Alors où est-ce qu'on classe Aaron Donald?
Bah Donald Gurley et puis.
Oui, Donald Gurley, Whitworth, on en parlait tout à l'heure, moi pour moi. Oui.
Et chez les Patriots, bon bah Brady évidemment. Alors meilleur sur la saison? Oui, Brady quand même, il est dans le top 3.
Brady, Brown.
Ouais.
Ah mais Brady, je sais. Attends. Je mettrais Trent Brown,
Trent Brown, ouais.
Trey Flowers fait quand même une bonne saison. Encore plus quand on voit le niveau global de la défense.
Stephon Gilmore.
Oui.
Qui est le pro.
Ça peut aussi. Bah, après, je dis non, Brady, parce que je trouve qu'il n'est pas aussi dominant que ce qu'il a pu être. Après, encore une fois, c'est de la mise en perspective. Ça ne veut pas dire qu'on peut le mettre dans les trois, comme on peut mettre un Edelman, comme on peut mettre un Gilmore. Ouais. Voilà, ça joue, je pense, dans un mouchoir de poche quand même.
Mister West, on a vu Carroll et Quinn perdre le Super Bowl en essayant de surprendre Belichick à chaque fois en choisissant la passe alors que la course s'imposait. Voyez-vous McVay être capable du même péché d'orgueil? Bon, est-ce qu'il y en a un qui va vraiment se liquifier sur le plan coaching? Je ne suis pas sûr quand même.
Ouais, je ne sais pas non plus. Bah, la question, c'est de savoir qui va suspendre. Quel joueur va être suspendu par Belichick avant le match? Ça, c'est aussi le gros point d'interrogation. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une petite jurisprudence Butler, non?
Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié Malcolm Butler déjà. Ouais.
Oui, après, c'est sûr que. Bah, pour le coup, c'était Shanahan, c'était un peu plus liquifié. Mais,
oui, c'est vrai.
Mais je ne sais pas. Honnêtement. Pour le coup, on n'a pas encore vu McVay. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, parce que c'est vrai que là, pour le coup, ils seront sur terrain neutre, dans un autre contexte, mais j'ai quand même pas été méga rassuré parce que j'ai vu des Rams d'un point de vue organisation en finale de conférence. Et je veux bien qu'ils étaient dans un dôme, dans un stade qui faisait beaucoup de bruit pour les perturber. Ouais. Je veux bien qu'ils aient eu des problèmes de casque pour entendre les consignes qui étaient transmises par le banc. Mais waouh, il y a des fois, c'était quand même, ça faisait quand même un petit peu peur. J'espère qu'on n'aura pas pour eux le même, j'espère pour eux qu'on n'aura pas le même scénario lors de la finale.
Eh bien voilà pour vos questions. On a fait une petite sélection parmi toutes celles qui portaient sur le match. On est concentré dans la preview. On passe au pronostic. 60 minutes, win this game for one another. C'est le moment, le grand moment est arrivé, puisqu'il va falloir pronostiquer. Alors avant d'arriver au rappel des scores et tout ça, d'abord, comme c'est exceptionnel avec le Super Bowl, on va commencer par les enjeux. Oui, tu vas savourer ta victoire, mais un peu plus tard. On va commencer par les enjeux, les clés du match et les facteurs X. Les enjeux, je vous le rappelle, d'un côté, l'expérience des Patriots. Elle est pour eux clairement de loin. Tom Brady a 9 ans de plus que Sean McVay, 17 ans de plus que Jared Goff. Wade Phillips et Aqib Talib sont les seuls à avoir gagné le Super Bowl, si je ne dis pas de bêtises. Non, là, je dois dire une énorme bêtise.
Oui,
oui,
oui, bah oui, oui, oui,
il y en a
oui,
peut-être un ou deux, mais je voulais dire c'est les plus expérimentés en défense. Mmh. En tout cas, 9e Super Bowl pour Brady et Belichick. Là aussi, en termes d'expérience, ça va être difficile de faire mieux. En cas de victoire, ils égalent les Steelers. C'est-à-dire que Brady et Belichick à eux seuls égaleraient toute l'histoire des Steelers, qui sont l'équipe la plus titrée à 6 titres.
Juste coupe, CJ Anderson a gagné un Super Bowl.
Voilà, CJ Anderson, bah oui, avec les Broncos. Donc je parlais, c'était ça, c'était les expérimentés en défense. Et donc, les Patriots en cas de victoire deviendraient l'équipe qui a gagné le plus de matchs de playoffs dans toute l'histoire de la NFL, quand on sait d'où ils partaient quand est arrivé Belichick.
Ah oui, c'était une petite franchise de losers à l'époque.
Voilà, ils en avaient joué deux. Mm. Ils en avaient joué deux, mais ils n'en avaient pas gagné. Les clés du match. Greg, quelles sont tes clés du match? Quelle est ta clé du match?
Bah, j'en parlais tout à l'heure, ligne offensive des Pats contre notamment Ndamukong Suh et Aaron Donald. Quand on voit le gros boulot qu'ont fait les deux, autant je suis pas étonné d'Aaron Donald, on sait qu'il est hyper régulier, mais très clairement Ndamukong Suh, qui était un peu le sale gosse de la ligue pendant des années à Détroit et Miami,
assez fou,
là il est arrivé avec son contrat d'un an en se disant bon bah là pour le coup il a clairement l'occasion de voilà, de se faire son palmarès, de marquer son empreinte dans la ligue malgré son passif un petit peu néfaste. Mmh. Donc très clairement, moi pour moi c'est un match-up que je vais suivre tout particulièrement et voir si vraiment les Rams sont capables de prendre à défaut cette ligne offensive des Pats, même si on le disait tout à l'heure. C'est pas forcément parce que tu arriveras à trouver les brèches que le ballon sera pas déjà parti.
C'est ça. Moi pour moi, alors au-delà du jeu. Voilà, je me trahis. Au-delà du jeu aérien, clairement, pour moi, le jeu au sol, parce que c'est cliché, parce que voilà. Mais ce sera un combat de tranchées, encore une fois, comme dans les autres matchs. Et celui qui va prendre la main sur le tempo du match, si on a un Sonny Mitchell qui est à 120 yards et que ça commence à mettre la main dessus et qu'il y a des petites passes à James White, etc., je vois quand même bien les Patriots à ce niveau-là. Et à l'inverse, si les Rams arrivent à retrouver ce qu'ils avaient quand même en termes de jeu au sol très très lourd sur les dernières semaines, sur une partie de la saison, ou même au début des playoffs d'ailleurs, où il y avait à la fois Todd Gurley et CJ Anderson qui carburaient, bah là ce sera très compliqué pour les Patriots. Donc c'est cliché, mais je pense dire ça. Et après, en deuxième, même si c'est plus un facteur X qu'une clé du match, je mords déjà, mais clairement, quel coach va prendre le dessus tactiquement, parce que je pense qu'on a une bagarre de coach qui est quand même assez exceptionnelle. Et je disais tout à l'heure, est-ce que Belichick peut ressortir ceci ou cela, etc. Je sais pas, je m'attends à ce qu'à un moment il y ait quelque chose qui soit tenté, alors que ce soit tactique, soit dans l'audace. On a vu des feintes de punt, on a vu des quatrièmes tentatives jouées dans son propre terrain, etc. Je pense que plus que jamais, l'an dernier on a eu le Philly Special quand même au Super Bowl, donc je pense que plus que jamais on est dans une ligue où les coachs prennent des risques, où ils se laissent ils se font plaisir, ils s'autorisent des risques qu'ils auraient peut-être pas pris il y a 5 ans. Et clairement, qui va être le plus audacieux, ça va être une des clés du match aussi à un moment.
Oui, je pense aussi. Alors, faut pas oublier non plus. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais même si c'est pas exactement ceux qui sont aux commandes de leur escouade respective, il y a un duel direct entre Zach Taylor et Brian Flores. Il y a casting, on va dire, à grandeur nature entre deux futurs head coach NFL. Donc, bon, ça peut être assez rigolo à voir également. Je suis pas sûr que ce sera une donnée. Les équipes spéciales, ça reste important. Je le disais, les Rams, c'est une de leurs principales forces. Faut qu'ils misent là-dessus et je ne doute pas qu'il y aura quelques risques qui seront pris, notamment par Sean McVay et John Fassel.
Alors, Factor X, est-ce que t'en as un? Là, on avait les clés qu'il faut gagner vraiment. Est-ce que t'as un truc qui pourrait être quelqu'un à surveiller? Je vais te donner le mien pendant que tu
réfléchis. Vas-y.
James White, 87 réceptions quand même en saison régulière. On parle de coureur, il a plus de réceptions que la plupart des receveurs. 15 contre les Chargers. énorme match contre les Falcons il y a deux ans aussi au Super Bowl. Donc il a l'expérience, il a la polyvalence. Voilà, je savais bien que j'osais à peine en parler. Alors qu'au moment où je vous parle, je vois une notification qui apparaît qui fera très plaisir aux supporters des Saints. Nickel Robbie Coleman a pris $26,000 d'amende pour son.
Il doit
son
être bien resté le coup.
Donc je disais, excusez-moi, James White, 87 réceptions en saison régulière. Je pense qu'il peut avoir ce rôle de facteur X qu'il avait eu contre les Falcons il y a deux ans et être hyper présent. Donc ça, et évidemment, on ne l'a pas dit, c'est le gros cliché, mais attention au ballon perdu et au turnover et à l'agressivité. Les Rams ont perdu pas mal de ballons dans leur défaite cette saison. Donc attention à ça. Est-ce que tu as un facteur X ?
Jared Goff,
très bon facteur X.
Jared Goff, voilà. Si on a le Jared Goff de la deuxième mi-temps à New Orleans, ça peut être intéressant pour Los Angeles. Si on a le Jared Goff... Qui s'est quelque peu liquéfié pour rester poli au cours du mois de décembre, ça peut être un match un peu compliqué.
Là, c'est de la vie perso, c'est totalement subjectif, c'est de la psychologie de comptoir, mais je pense que le pire leur est arrivé en début de match et ça peut que leur faire du bien. Ils ont eu un mauvais Todd Gurley, ils ont eu un Jared Goff à la rue, etc. Ils sont passés à une erreur d'arbitrage de la défaite, hein, clairement. Donc au final, ils étaient déjà morts à un moment. Donc. Est-ce que ça peut pas les libérer encore plus ? À voir. Mais ça, encore, c'est de la psychologie.
Encore une fois, je pense que Todd Gurley est capable de rebondir parce que je l'estime capable mentalement. Après, on a vu que Jared Goff, il était capable aussi d'enchaîner pas mal de matchs avec la tête dans le sac. Donc, c'est juste ce qui m'inquiète un petit peu sur un match avec une telle pression.
En un mot, est-ce que ce sera un match offensif ou défensif pour toi avant de passer au prono ?
Je dirais quand même offensif.
C'est le moment où on se ridiculise. L'an dernier, on a dû dire un truc genre ça va être défensif. Il y a eu 2 milliards de yards à la passe.
Non, mais encore une fois, la défense des Pats est quand même beaucoup mieux, je trouve. Je serais étonné qu'ils soient vraiment ouvrir au sol, comme ça peut être le cas, par exemple, pour Dallas contre les Rams. Et la défense des Rams, on voit quand même que Wade Phillips
donc
est capable de...
pour toi ?
Après, ça dépend ce que tu appelles offensif. Et offensif, c'est à partir de combien de points ?
On va dire les deux équipes en dessous de 25 points, c'est défensif. Je pense qu'il va être dans ces eaux-là, c'est pour ça que je dis.
Je pense que ça peut être défensif. Ça peut être un.
Je pense qu'il sera plus défensif que ce qu'on pense, en tout cas.
Ça peut être un 23-20 ou un truc dans le genre.
Je vois pas le carnage offensif de l'an dernier. Après, encore une fois, mais voilà. Les pronostics. Donc, on va passer justement au moment crucial. En plus, tu vas parier sans pression, Grégory, puisque. La semaine dernière, 4 points pour toi, 4 points pour Raphaël. 0 points pour Raphaël, pardon. 4 points pour Raoul et 4 points pour moi-même. C'était 4 points par match, hein, on le précise. Donc, on a tous fait 1 sur 2, sauf Raphaël qui a 0 sur 2. Au total, donc... Grégory, 185. Raphaël, 177. Raoul, 172. Et moi-même, 168. Tu es donc désormais intouchable. Et tu as remporté, puisque le Super Bowl vaut 5 points dans les pronostics. Tu as plus de 5 points d'avance. Donc, tu es notre champion
de 2018-2019. Et je ne ferai pas le grand seigneur à dire pour la peine, on mettra 10 points.
C'est vrai, à une époque, on bidouillait jusqu'à la fin. Bon. Donc, Raphaël, lui, va devoir préserver son avance sur Raoul, puisque Raoul peut égaliser. Et moi-même, je vais essayer de doubler Raoul, puisque... On a splitté les finales de conf, donc je suis toujours à 4 points, je peux passer devant. Donc,
pour l'instant, c'est toi qui fais le gage.
Pour l'instant, c'est moi qui fais le gage.
Enfin, le dernier gage en date, hein, parce que voilà. On faut toujours trouver l'avant-dernier.
Petit rappel, c'est la revanche de 2002. À l'époque, Marshall Faulk était là. Tu veux qu'on la rejoue comme ça ? Oh là là, Marshall Faulk. Bref. Donc, Marshall Faulk était là et les Patriots l'avaient emporté pour démarrer leur dynastie. Petit rappel, l'an dernier, les Eagles jouaient la revanche de 2004.
Ouais.
Et ils avaient gagné. Voilà. Ça ne veut absolument rien dire, c'est une stat complètement bidon, mais
petit rappel également qui fera plaisir aux fans des Pats. Faut pas oublier qu'à l'époque, le Rams Patriots que tu évoques, c'était le déjà vieillissant Kurt Warner contre le très jeune Tom Brady.
136 yards à la passe
qui avait commencé à écrire sa légende lors de cette saison-là et de ce match-là. Là, on a une configuration avec un très vieillissant Tom Brady contre un très jeune Jared Goff. Donc, à voir.
Kurt Warner était un jeune homme par rapport au Tom Brady d'aujourd'hui. Hein, parce qu'il devait avoir
il a arrêté en 2009. Il arrête la saison 2009, je crois.
Oui, non, il avait encore la trentaine en 2001.
Oui,
on n'est pas des vieillards.
Il rentrait dans la trentaine. Quoi.
Et alors, pour la petite stat, et là qui ne veut rien dire, mais sachez que la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, c'était en décembre 2016. Et à l'époque, les Rams avaient terminé le match. Donc, ils avaient déjà Jared Goff et Todd Gurley, bien sûr, avec 162 yards en attaque sur le total du match. Évidemment, le coach était
Jeff Fisher.
Voilà, c'était les derniers matchs
de
Jeff Fisher. Goff. Ouais, j'ai regardé la feuille de match. C'est Goff Gurley qui joue sur le match. Bah, il avait fini par le titulariser après 8 ou 9 semaines.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Sous la menace d'une arme, mais il avait fini par le faire.
C'était un des derniers matchs à Saint-Louis, du coup.
Ils sont pas déjà à Los Angeles quand ils ont drafté.
Bah, c'est 2017 qu'ils ont à Los Angeles.
Tu me mets un doute. Oui, mais tu me mets un doute. Bon, bref. En tout cas,
nous répondrons à cette question prochainement.
En tout cas, dernier match avec les deux n'avait aucune signification. Le pronostic, donc, Greg, tu es le tenant du titre maintenant. C'est toi, on écoute ta voix. Qui va gagner ce Super Bowl?
Écoute, j'ai dit New England l'année dernière contre Philadelphie. Mm-hmm. Ça m'a coûté des pronostics. Je l'ai rappelé.
Bah là, il n'y a plus de risque.
Mais la plaie est encore là.
Je me doute.
Non, je dirais quand même New England. Il y a une expérience supplémentaire et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je ne sais pas encore si cette équipe des Rams est capable d'être aussi disciplinée que peut l'être celle de New England. Si on peut éviter le bordel, on va dire, occasionnel qu'on a pu voir sur le terrain de New Orleans la semaine passée. C'est ce qui m'inquiète encore un peu. Après, voilà. On ne sait pas ce que vaut Sean McVay, Jared Goff encore moins. On a vu un très mauvais Todd Gurley dont on ne connaît pas toute la condition physique. Honnêtement, j'irais quand même sur le choix un peu plus sécure, en l'occurrence New England.
Raphaël a donné les Rams. Mmh. Raoul donne les Patriots également. Mmh. Donc, je vous explique quand même en deux temps. Mon choix officiel des pronostics se porte sur les Rams. Parce que je dois pronostiquer différemment de Raoul pour le battre. Mmh. Donc, comme Raoul a pris les Patriots, je prends les Rams.
Que de calcul.
En oui. espérant qu'il gagne et que je passe dehors. Dans les faits, si je devais mettre de l'argent dessus, je pense que je prendrais les Patriots aussi. À l'expérience, au coaching, au quarterback, tout ça dans un Super Bowl, c'est quand même très important. Euphémisme. Donc, je pense qu'à l'expérience et sur ce match et sur ce qu'on a vu des équipes en finale de conférence, la maîtrise qu'ils pouvaient dégager au moins par séquence du match, je prendrais les Patriots si je devais y mettre de l'argent. Et je vais même te donner un score. Je vois bien un 31-23 Patriots.
D'accord. Ok.
Voilà.
Pourquoi
pas. Je donne ça comme ça. Mais ouais, je vois bien un score, non ?
Moi, j'ai dit 23-20. 23-20, Pat, ça me paraît pas mal.
Je vois avec un petit écart. Même, tu vois,
mais on peut très bien avoir des prolongations. On rappelle qu'il y a quand même eu deux prolongations en finale de conf.
On peut avoir des prolongations. Justement, s'il y a des prolongations, peut-être que ça va vous rapporter gros.
Peut-être.
La transition est toute trouvée pour passer aux meilleures cotes. Comme toutes les semaines, les meilleures cotes chez Unibet, il n'y a plus qu'un match. Donc, plutôt que de faire un combiné, on vous a sélectionné trois bonnes cotes. À vous de choisir ce qui vous plaît. La cote numéro 1, elle porte sur un marqueur de touchdown. Grégory, on a pris du côté des Patriots un homme dont on a dit, c'était mon factory, justement, James White à 2,07. C'est plutôt alors, il y a beaucoup de coureurs, ça peut être risqué, mais il a plutôt une bonne cote et on sait que ça peut être un joueur de Super Bowl.
Oui, il l'a déjà montré en effet, et il est capable, c'est celui en tout cas qui est capable de prendre le plus de vitesse et de capter les ballons en sortie de backfield, et on l'a dit, ça va quand même être une clé importante pour les Rams, un secteur qui pour moi est quand même très important dans l'optique d'une potentielle victoire. Donc voilà, ça peut être un joueur que les Pats vont cibler pour avoir un match-up préférentiel et donc potentiellement un marqueur de TD.
Et Rob Gronkowski est à 2,30 ou 2,33 au moment où on vous parle, si jamais ça vous intéresse, chez les Patriots. Chez les Rams, on a pris un marqueur de touchdown, c'est Gerald Everett, parce que les tight ends des Rams, on n'en parle pas beaucoup, on n'en a même quasiment pas parlé nous dans la preview, mais Gerald Everett pourrait marquer et il a une très bonne cote puisqu'il est à 4,30. Donc là, c'est un petit coup à jouer. C'est
ouais,
plutôt une belle cote dans la red zone.
Dans la red zone, j'étais assez étonné que Higby ait une cote un peu moins importante en l'occurrence. On l'a dit, les tight ends sont très souvent incorporés. Gerald Everett a des meilleures mains que Tyler Higby. Il est parfaitement capable de capter le ballon, que ce soit plein centre ou même sur les extérieurs. Il ne faut pas oublier son touchdown de la dernière minute contre les Chiefs au mois de novembre. Donc c'est aussi ça qui, je pense, va en faire un match-up un petit peu délicat pour les Pats. C'est du coup un joueur à surveiller comme potentiel marqueur.
Et puis la troisième, la grosse cote, on aurait dû les appeler comme ça plutôt que la première. On aurait dû les appeler la petite, la moyenne et la grosse, puisque ça montait pile dans l'ordre. La grosse cote, c'est un mi-temps fin de match. Mi-temps, les Rams sont devant. Fin de match, remontada de Tom Brady. Et là, ça nous fait un 6,75 des familles.
Ah, du coup, il y aura écrit cinquième cote en bas, mais c'est parce que j'ai donné une mauvaise indication à Camille.
Ah bah voilà, bon. Troisième cote, en tout cas, Rams à la mi-temps, Patriots en fin de match. Là, c'est du classique. C'est la remontada de Tom Brady. On vous laisse choisir, évidemment. Un petit YOLO. Petit YOLO simple mais efficace.
Il n'y a pas deux autres cotes ?
Non, on n'en a mis que trois normalement.
Ah bon, écoute.
Non, t'en as deux autres, Camille ? Ah, bah, t'en as deux autres.
Les vainqueurs.
Alors, écoute, il y en a pour tous les goûts. La troisième, c'est les Rams à 2,05. Elle est intéressante aussi. C'est vrai. Ah, bah oui, elle est marquée troisième. On fait dans le désordre. Donc, les Rams à 2,05. L'outsider dans ce match sur le pari direct. Je crois, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, mais je crois que dans le fauteuil la semaine dernière, je vous avais fait jouer les deux outsiders et c'était passé. Donc, les deux équipes à l'extérieur à l'époque, c'était passé. Donc, 2,05 les Rams en outsider, c'est pas mal dans un Super Bowl.
Surtout que c'est l'équipe qui joue à domicile.
Officiellement, ouais, c'est vrai. C'est eux qui vont s'entraîner dans les installations des Falcons, d'ailleurs. Et qui seront dans le vestiaire, je suis pas sûr, mais dans les installations, ouais.
Écoute, ils vont se régaler. Bravo à eux.
Ah bah oui, c'est tout neuf. La quatrième, du coup, alors là, je découvre en même temps que vous. Ah oui, celle-là, c'est moi qui l'avais mis. Patriots par 6 ou plus, parce que justement, je disais qu'il allait avoir un petit éclat, et la cote est bonne, c'est 2-10. Donc celle-là, je la trouve plutôt pas mal, ouais. Patriots de 6 ou plus à 2-10, parce que si vous voulez jouer les Patriots simples, elle est un peu moins haute. Mais du coup, là, si vous jouez sur les écarts de points, Patriots à 2-10, je trouve ça plutôt pas mal. On est bon au niveau des cotes ou on arrive au YOLO? On arrive au YOLO? Allez, le YOLO. Match nul à la mi-temps et match nul à la fin du match, ce qui veut dire prolongation sur Unibet, évidemment. Le YOLO, donc match nul à la mi-temps, match nul à la fin, c'est-à-dire prolongation. C'est pas impossible, on en a eu deux en finale de conf. 55.
Ça peut être un match où les deux équipes se rendent coup pour coup, touchdown, touchdown, field goal.
Bah ouais.
C'est pas non plus farfelu.
Ou alors 0-0 à la mi-temps, 3-3 à la fin. Prolongation.
Oui, voilà, ouais. Beaucoup d'imagination. Mais...
Non, mais clairement, voilà. Match nul à la mi-temps, match nul à la fin, prolongation. Ça fait une cote à 55 sur Unibet. Mettez un petit euro dessus. K.O.
Ça se tente.
Allez, c'est un YOLO. C'est comme ça que se termine l'épisode 283 du podcast Touchdown Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche dans le fauteuil, évidemment, un fauteuil pré-Super Bowl. Il faut absolument que je définisse l'horaire, dis donc. Dites-moi tout ça. Allez, 21h, 23h. Voilà. Je suis comme ça. 21h-23h.
2 heures de fauteuil.
Eh oui, monsieur, 2 heures de fauteuil. La batterie de l'iPhone, elle va exploser. Ça va être incroyable. Il faut que j'achète 3 téléphones de secours.
Oui,
ça va être. Là, j'ai intérêt à tout charger pendant la journée parce que ça va être incroyable. Mais en tout cas, 21h-23h, ça va être un gros fauteuil. Au niveau des thèmes, n'hésitez pas à proposer. Il y en a déjà un. Ça va être les meilleurs Super Bowls de l'histoire quand même. On a parlé un petit peu d'histoire pendant toute l'année. On va parler des meilleurs Super Bowls de l'histoire. On va se faire un petit power ranking des fromages aussi. Hein. Vous n'allez pas y couper. Il va y avoir un top 10 de ce qui s'est fait cette année. N'hésitez pas à envoyer vos propositions aussi. Mais je vais vous dire honnêtement, j'ai déjà un petit peu l'ordre établi dans ma tête. J'ai refait des tests cette semaine.
D'accord. Tu as tes chouchous.
Ah bah oui.
D'accord.
Je
pensais pas que les dés étaient pipés d'entrée.
Honnêtement.
Ouais.
Ah bah je fais mon power ranking, tu vois.
D'accord. Je pensais que c'était d'accord. Ok.
Le top 3 est plus ou moins déjà formé. J'ai pas tout à fait l'ordre, mais puis il y a comment dire. En plus, je vais jouer sur la variété. Il va y avoir de la pâte dure, il va y avoir du brebis, il va y avoir du lait de vache. Enfin, il va y avoir plein de choses. Ça va être vraiment très pointu. Je pense que je vais perdre la moitié des auditeurs si je fais ça au milieu de l'émission. Je vais voir la courbe YouTube. Hop là, bon. Donc, en tout cas, fauteuil le jour du Super Bowl de 21h à 23h. Il y aura peut-être aussi une petite émission surprise dans l'après-midi. On vous garde ça sous couvert, mais normalement, dès que c'est officiel, on vous met ça sur le site. Et puis, n'oubliez pas, le débrief du Super Bowl, ce sera au Hard Rock Café en public le 5 février à partir de 18h30. On vous accueille, 19h, l'enregistrement. Et peut-être un Grégory Richard jetlagué qui fera une apparition. On ne sait pas si tout va bien, si l'avion n'est pas en retard.
Mais je suis rarement jetlagué. Paradoxalement, je suis rarement jetlagué sur le retour. J'ai plus de mal à aller qu'au retour.
Ah bah tu vas te réveiller au milieu de la nuit en mode zombie là lundi. Ça
oui,
va être
je pense.
C'est des bons moments ça. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller. Il y a plein de liens sur le site et sur Twitter. Vous cliquez. Comme ça ils savent que vous venez de notre part. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On vous remercie encore pour cette très très belle année. On se retrouve donc dimanche à 21h dans le fauteuil. Les commentaires sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube, les abonnements, tout ça. N'hésitez pas. Ça nous aide évidemment pour nous suivre Twitter @TDActu, Facebook @TDActu aussi, Instagram @TouchdownActu en entier, les comptes perso @YelloRadioSa pour Grégory, @CamilleSaraben pour Camille, @AlainMattei pour moi-même, et je le reprécise quand même, suivez bien @TDActu sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Puisque donc Greg embarque pour Atlanta incessamment sous peu, au moment où vous regardez l'émission, il est dans l'avion d'ailleurs.
C'est ça.
Puisque au moment où on doit la mettre en ligne, normalement, il est dans l'avion. Donc Greg sera à Atlanta, il va vous faire vivre tout ça. Il y aura des articles sur le site, il y aura des photos sur les réseaux sociaux. Enfin,
surtout Instagram, je suis au taquet,
Il adore Instagram. je vais lui installer là sur son téléphone. Je lui ai dit, tu fais l'Instagrammeuse, tu mets des filtres, tu fais des bouches comme ça. comme ça avec des culs de poule et tout, là ça va être magnifique. ça va être vraiment, on va tuer le Instagram game, je le sens.
Je vois que ça là.
Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, ça va être mortel. On va avoir quelqu'un sur place, Greg sera en tribune de presse le jour du match, il va nous raconter tout ça quand il revient. Il fera même probablement des lives depuis là-bas, on va organiser tout ça aussi, au moins un petit quand même pour vous faire vivre ça. Donc voilà, ça va être du très très bon. On vous remercie de nous suivre parce que c'est grâce à vous que tout ça est possible. Ça a été une très belle saison sur Touchdown Actu. On fait pas encore le bilan, on fera ça encore un peu après parce qu'il en reste, mais ça me permet de vous dire déjà merci. Voilà pour la preview du Super Bowl, on espère que vous avez apprécié. On a pris bien notre temps, elle fait plus d'une heure a priori là. On a fait une grosse preview, donc mais tant mieux, on est allé en détail. Ça va être un très beau match, on vous souhaite de très bonnes choses. Merci beaucoup Camille, je sais plus si je l'ai dit mais je le redis, merci beaucoup Grégory.
Toujours
bon voyage
plaisir.
À toi, éclate-toi bien, profite bien de tout.
J'aime
ça,
j'aime gêner.
Bah attends, en plus t'as même pas à voir les Saints triompher sur la pelouse des Falcons. Donc
ah c'est vrai que j'ai transpiré un peu. Ouais.
C'est vrai que toi l'arbitre. Il aurait retiré sa casquette, on aurait vu Grégory.
Je pense que je vais cotiser pour rembourser les 26 000 à Robbie Coleman.
Il va monter une petite cagnotte Gucci pour Robbie Coleman donc. C'est ça. Allez voilà pour la preview. En tout cas merci beaucoup. Toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com, touchdownactu.com. Merci beaucoup. À très bientôt. À dimanche dans le fauteuil. Ciao ciao.
Des jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fismol pour Marshall Lynch, Franklin Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.